France Inter.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Votre nez coule, vos yeux pleurent, vous avez parfois du mal à respirer. 79 départements sont ce soir en alerte rouge au pollen à un mois du printemps. Seule la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France sont épargnés. Le risque allergique est particulièrement élevé cette année. La douceur des températures a favorisé la floraison des arbres. Une alerte à prendre au sérieux car aujourd'hui, d'après l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, près d'un adulte sur trois et 20% des enfants de plus de 9 ans souffrent de ce que l'on appelle communément le rhume des foins. L'Organisation mondiale de la santé estime même que d'ici 2050, la moitié de la population mondiale sera allergique. Entre le pollen, les intolérances alimentaires et les acariens, c'est un véritable défi de santé publique. Alors pourquoi cette flambée d'allergies? Et vous, les pollens, mais aussi le lait, les œufs, le gluten, le soja, les fruits à coque pourrissent votre quotidien? Parvenez-vous à les éviter? Avez-vous dû changer votre mode de vie? Et quels traitements sont vraiment efficaces? C'est le téléphone sonne ce soir. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et bonsoir Claire.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Quimper.
Oui, c'est bien ça.
Nous vous écoutons.
Alors, en ce qui concerne les allergies, très jeune, j'ai développé une allergie aux acariens. Enfin, je manifestais une allergie aux acariens. J'ai pas été désensibilisée. Mm-hmm. Mon petit frère de 2 ans de moins, oui, mais moi, mes parents trouvaient que j'étais trop âgée. Bon, j'étais encore enfant, mais voilà. En tout cas, je peux rendre service aux agents immobiliers ou aux amis qui veulent acheter une maison ou louer un appartement. Parce que si on leur dit qu'il n'y a pas de problème d'humidité et qu'il y en a, mon nez va piquer tout de suite.
Ah oui, donc, d'accord. Vous êtes bonne camarade. Ça a au moins un avantage.
Ça peut servir. Voilà. Et sinon, j'ai développé malheureusement une intolérance au gluten. Alors, j'aime pas le mot intolérance parce que c'est comme si on en était responsable.
Oui, c'est intéressant.
Intolérant, bon, voilà, c'est pas très positif et on y est malheureusement pour rien. Alors, je l'ai développé bien avant de savoir ce que c'était. J'avais beaucoup de problèmes digestifs. J'ai un père médecin. De temps en temps, je lui demandais ce qu'il en pensait. Et il n'a jamais su me mettre sur la piste, mais pour sa défense, il était déjà à la retraite. Il est très âgé. Il a 89 ans maintenant. Mmh. Donc, il n'est pas de la génération de médecins au courant tellement de ce problème. Mmh. Et c'est une amie d'abord qui m'a mis un peu sur la piste parce qu'on avait le même problème. On avait le ventre qui grossissait comme si on était à 6 mois de grossesse en un temps record, enfin en quelques heures. Mmh. Et elle m'a dit, écoute, essaye le pain bio, pas industriel, le pain bio local, artisanal. Et effectivement, ça m'a convenu pendant quelques années. Mais je ne sais pas si c'est parce que je suis une grande amatrice de pain. Toujours est-il qu'au bout de quelques années, ça n'a plus été suffisant. Donc j'ai dû... Là, c'est ma fille qui m'a mis sur la piste. Elle avait ouvert un restaurant sans lactose et sans gluten. Et elle m'a dit, écoute, tu devrais essayer au moins un mois. Et comme ça, tu en auras le cœur net. Mmh. C'est ce que j'ai fait depuis pas mal d'années maintenant, au moins 6 ans. Et quand j'ai essayé de réintroduire tout doucement le gluten, bah malheureusement, c'est toujours pas possible pour moi.
Mmh. Bon, on va en parler avec le docteur Séverine Fernandez. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes allergologue à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, et présidente du syndicat des allergologues en ligne avec nous. Et nous sommes aussi en ligne avec Pascale Couratier, qui est directrice générale de l'AFPRAL. C'est l'Association française pour la prévention des allergies. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Alors, Séverine Fernandez, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Claire ?
Déjà, bonsoir Claire. Pour répondre à Claire sur ces questions, je pense qu'il faut déjà dissocier. Il faut séparer ce qui est allergie aux acariens de l'intolérance au gluten ou au lactose.
Il n'y a pas de lien ?
Non, il n'y a aucun lien. Et puis surtout, il faut comprendre la différence entre une allergie et une intolérance. Et ça, c'est fondamental. Mmh. C'est-à-dire qu'une allergie, il y a une réponse du système immunitaire. On a des anticorps présents qui sont là d'habituellement pour lutter contre les bactéries, les virus, vous voyez, qui, quand il y a une allergie, il va y avoir reconnaissance d'une protéine ou glycoprotéine de l'environnement, donc ça peut être un aliment, un pollen, et le système immunitaire va répondre en se défendant comme s'il se sentait agressé, mm-hmm. avec une réponse en chaîne. On a une réponse vraiment d'attaque du système immunitaire. Dans l'intolérance, il y a une grosse différence. Dans l'intolérance, en fait, il n'y a pas d'action du système immunitaire. C'est le corps qui se sent gêné par, alors c'est difficile à dire gêné parce que c'est gênant, enfin c'est très gênant hein, l'intolérance, mais il n'y a pas de risque vital dans le sens où il ne va y avoir de réponse du système immunitaire. Mm-hmm. Et ça, c'est principalement, c'est un autre problème, hein, ce n'est pas un problème d'allergie, un problème d'intolérance, c'est plutôt lié à notre mode de vie, on va dire.
Mais on peut le, ça veut dire, pardon de vous interrompre, ça veut dire qu'on peut les soigner les intolérances ou pas ? Il y a des médicaments ou pas ?
Il n'y a pas de médicaments pour les intolérances, ça va être le mode de vie. On le sait très bien, il y a eu plusieurs études qui ont montré que pour le gluten, ça vient aussi d'un excès d'enrichissement des farines qui sont trop riches en gluten et qui ont du coup, qui sont donc qui rendent plus intolérants les patients, et notamment le pain blanc.
Voilà, ça veut dire qu'il faut éviter le pain.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a certains aliments qui sont plutôt à éviter, qu'on conseille d'éviter. Mais vraiment, ça, c'est avec une diététicienne ou avec des gens peuvent aider à ça. Mm-hmm. Nous, l'allergologue, on va s'intéresser vraiment à ce qui est allergie. Donc, le problème, c'est qu'on a aussi des patients qui sont allergiques au gluten et eux qui vont faire des chocs anaphylactiques, des réactions très sévères avec risque vital.
Mmh, donc on a bien compris la différence entre l'allergie et l'intolérance. Hein. On estime qu'en France, il y a une personne sur deux qui considère qu'une allergie n'est pas une maladie. Docteur Fernandez, c'est une maladie ou pas ?
C'est une maladie même chronique, mais c'est une maladie qui est sous-évaluée ou on va dire aussi minimisée. Et ça devient un vrai problème parce qu'en fait, on ne voit pas ou alors on n'entend pas le mal-être de ces personnes allergiques. Là, il y en a plusieurs études qui montrent, hein, moi je peux vous donner beaucoup de chiffres, les retentissements, il y a déjà au niveau sociétal, hein, il y a beaucoup d'arrêts de travail qui sont liés aux problèmes d'allergie parce que c'est invivable, c'est responsable de signes graves. Nous, allergologues, on voit très peu les patients qui souffrent de ce qu'on appelle une rhinite simple, hein, l'éternuement, avec la conjonctivite simple. Les conjonctivites, c'est les yeux qui grattent, qui deviennent rouges. Mmh. On va avoir principalement des patients qui vont avoir des comorbidités, donc c'est-à-dire des symptômes beaucoup plus sévères, avec notamment 40% qui développent de l'asthme. Mmh. Hein, donc l'asthme, c'est quand même une maladie sévère. 5 à 10% des polyposes nasosinusiennes, des kératoconjonctivites, et on va avoir aussi maintenant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de troubles du sommeil, on dépiste notamment chez les enfants, là, on découvre des responsabilités dans les syndromes d'apnée du sommeil.
Oui, d'accord. Pascal Courati, on banalise trop effectivement les allergies ?
Oui. Comme vous l'avez précisé, comme l'a précisé le docteur Fernandez, il y a effectivement des chiffres. On sait que 65% des Français minimisent la gravité des allergies. Et moi, je dirais, on a tous entendu parler de l'allergie au boulot, mais au travail, où on est allergique à sa belle-mère. Mais être allergique...
Oui, c'est ça, c'est une blague, en fait.
On banalise vraiment. Mmh. Oui, tout à fait, on banalise.
Alors pourquoi, docteur Fernandez, vous disiez-vous, on minimise ? Pourquoi ? C'est culturel ? C'est spécifiquement nous, les Français, ou c'est chez nos voisins, c'est la même chose ?
Alors, j'ai pas trop de comparatifs chez les voisins. Je sais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place assez rapidement. Mais on n'est pas là pour comparer spécialement. Oui. En France, je pense que c'est comme dit très bien Pascal. En fait, on utilise ce terme d'allergie pour tout et n'importe quoi. On l'utilise c'est un mot courant, hein, je suis allergique, comme elle disait, au boulot ou autre. Mmh. Et en fait, on a aussi cette sensation que d'avoir une sorte de rhume, c'est pas si grave.
Oui,
d'accord,
c'est ça.
Tant qu'il n'y a pas... en fait, c'est vrai qu'on a une culture un petit peu en France de se dire, tant qu'on n'est pas mourant, ça va, c'est pas grave. Mais en fait, non, parce que tout ce qui ne se voit pas existe. Et il faut savoir aussi l'anticiper. L'allergologie, hein, les allergies, l'allergologie, c'est vraiment une médecine aussi qu'il faut prendre en prévention.
Mmh. On va en parler.
Parce qu'il va y avoir une évolution, mais je pense qu'il faut aussi... La problématique aussi, c'est qu'avant, il y avait vraiment des rhinites simples, et puis voilà, c'était les éternuements, comme je disais, mais que maintenant, ça s'est aggravé, et en fait, ça va plus vite que finalement les...
Mais...
Oui.
Oui, vous vouliez dire quelque chose, Pascal Couratier ?
Oui, tout à fait, par rapport au comparatif avec les autres pays, notamment hein, pourquoi en France on minimise et puis pas forcément d'autres pays, comme les États-Unis ou alors aussi les pays anglophones, je dirais. Je peux faire ces comparatifs parce que l'AFPRAL travaille aussi avec les associations au niveau international. Mm-hmm. On est dans un groupement d'associations, mais bon, je vais passer sur le sujet. Et en fait, ça nous permet de comprendre pourquoi dans certains pays, beaucoup de choses sont mises en place. Mais en fait, en France, on ne meurt pas d'allergie. allergies. On ne meurt pas quand on est malade et surtout les enfants ne meurent pas. Hein. On cache tout ça. Alors que dans les pays comme les États-Unis ou autres pays anglophones, on parle beaucoup, on est sur une communication un peu sur le drame et sur on fait peur en fait, on fait très peur et on alerte sur les risques en communiquant énormément sur le risque de décès. Mmh. Alors qu'en France, non, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Et même nous, en tant qu'association, jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on était plutôt là pour parler de façon positive.
Oui, on veut pas dramatiser non plus.
On ne veut pas dramatiser. Mmh. Et c'est vrai que ce soit pour n'importe quelle pathologie, en France, les enfants ne meurent pas, en fait, disons officiellement et dans la communication. Alors qu'il est peut-être temps, effectivement, de changer notre façon de communiquer pour qu'il y ait une véritable prise de conscience.
Et Séverine Fernandez, moi, j'aimerais comprendre pourquoi ça s'aggrave. Pourquoi l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que d'ici 2050, la moitié de la population mondiale sera allergique ?
Les causes, elles sont multiples. Les causes, elles sont liées principalement aux changements climatiques et environnementaux, à notre mode de vie aussi. Et puis, de fait, on a créé aussi un peu des prédispositions génétiques. Donc, pour revenir à ça, faut connaître un petit peu les études. Elles montrent que dans les milieux urbains, on a quand même 30 à 40% de risque d'allergie, contrairement à un milieu rural où on est plutôt aux alentours de 15%. Oui. Et 12% de développer des asthmes en ville. Par rapport, oui, on est à 5% en campagne.
Donc, c'est la pollution.
Ça, c'est lié à la pollution. Donc, il y a un phénomène de pollution qui est très important à prendre en compte. On a aussi un appauvrissement, on va dire, du contact avec les microbes, l'environnement, qui a fait qu'on a moins développé, finalement, des anticorps qui vont s'habituer à être en contact avec beaucoup de choses. Donc, du coup, quand il est en contact, le corps, avec des acariens ou autres, il va vouloir se défendre parce qu'il n'a pas pris l'habitude de comprendre et de tolérer ce que c'est. Il y a ça, il y a notre mode de vie aussi, l'alimentation ultra transformée. Oui. Ça crée une espèce, si vous voulez. Il faut s'imaginer qu'en fait, le corps, il est constamment une sorte d'inflammation constante. Donc, il est permanent, en permanence, il essaye de comprendre est-ce que ça, ce que je reçois, c'est bien, c'est pas bien, je dois y aller, je dois pas y aller, je dois lutter. Et en fait, à force, il se dérègle et il va créer des allergies.
Mmh. On va revenir au standard. Madeleine. Bonsoir, Madeleine.
Oui, bonsoir. Mmh. Merci de prendre mon appel.
Je vous en prie.
Alors, vous avez répondu en partie à ma question parce que, en fait, de base, je suis une très grande allergique, c'est-à-dire à la poussière et les acariens. J'ai été immunisée pendant très très longtemps avec des produits anciens, parce que c'était dans les années 90, on va dire. Beaucoup de cortisone, énormément de cortisone, les crises d'asthme à répétition, assez important. Et puis je ne sais pas, donc ça, bien évidemment, je ne m'explique pas. Hein. C'est après la naissance de 3 enfants, ces crises se sont espacées. Donc, on va dire que de temps en temps j'éternue, de temps en temps je suis gênée par les pollens, des poussières qui passent, parce que des poussières on peut pas les éviter, elles sont partout. Mais ce qui m'a un petit peu surpris un jour, du jour au lendemain, j'ai été, alors maintenant j'ai compris que c'était l'intolérance à l'avocat. Oui. Voilà. Oui. Alors, j'ai toujours mangé de l'avocat et puis c'est terminé.
C'est intéressant ce que vous dites, Madeleine, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que d'un seul coup, on devient allergique à quelque chose, docteur Fernandez.
On sort souvent cette phrase, on n'est pas allergique, on le devient.
Oui, mais c'est vrai.
C'est vrai,
ou pas ?
Mais c'est vrai. Mais
alors, je peux vous dire que dans mon cas personnel, c'est vrai.
Voilà.
J'ai grandi à la campagne et je suis devenue allergique au pollen à l'âge de 30 ans.
Eh oui, c'est malheureusement vrai, on ne peut pas prévoir. On sait qu'il y a des terrains prédisposants, ce qu'on appelle le terrain atopique, le fait d'avoir des parents qui sont déjà allergiques ou qui ont un terrain. On sait qu'il y a un facteur de risque aussi plus important quand on souffre de dermatite atopique. Donc, c'est des problèmes de peau, ce qu'on communément on dit l'eczéma. C'est un terrain prédisposant. Mais on ne naît pas, on le devient allergique, on le devient malheureusement du jour au lendemain.
Mais on le devient, et elle nous disait, Madeleine, après, j'ai des crises qui se sont espacées aussi, c'est-à-dire on le devient, mais ça peut disparaître ?
Oui, ça peut disparaître, parce qu'heureusement, on a un corps qui est très intelligent. Vraiment, le corps humain est exceptionnel, je trouve. Il arrive lui-même à se redire, finalement, cet acarien, parce que je parle de la poussière, Je vais m'habituer, il est là tout le temps, donc je vais diminuer un petit peu ma réponse. Ça, ça arrive. On le voit principalement aussi, beaucoup de gens le racontent avec leurs animaux. Les chats, ça on le voit au quotidien. Après, voilà, nous, notre travail d'allergologue, c'est d'être présent et de pouvoir bilanter, faire tout ce bilan complet pour vérifier les comorbidités qu'on a et en cas de finalement de non-réponse quand ça s'aggrave, pouvoir tout de suite mettre en place les bons traitements, traitements symptomatiques ou ce qui marche le mieux surtout, c'est l'immunothérapie allergénique.
Ah oui, ça existe, ça, l'immunothérapie allergénique ?
Oui, c'est ce qu'on appelle communément la désensibilisation.
Ah, d'accord. Plus connu sous le nom de la désensibilisation.
Voilà. Mais nous, on aime bien le terme, on préfère celui-ci parce qu'il explique mieux, puisqu'il va, il va permettre finalement de reprendre une voie de tolérance en prenant finalement l'allergène. Ça agit un peu le même principe qu'une vaccination.
Ça, c'est ce qui est vraiment le plus efficace, la désensibilisation.
C'est le plus efficace. Actuellement, c'est le plus efficace.
Et ça dure combien de temps ?
Alors, là, c'est variable. Et c'est là que c'est compliqué.
Actuellement, j'ai l'impression que tout est compliqué avec les allergies,
Mais oui, mais c'est pour ça que j'en appelle à vraiment prendre le sujet à bras-le-corps, parce que on voit des choses, on voit l'évolution, on voit que ça s'aggrave, et on a besoin vraiment d'aller pour anticiper ce que j'appelle un petit peu cette épidémie qui est en train d'arriver, mais qu'on laisse un peu courir. La désensibilisation, le principe, c'est de prendre ce à quoi on est allergique, le laisser agir sous la langue pendant 2 minutes environ. Et en fait, on a dans la salive, on a un fort système immunitaire qui va capter ce produit et entraîner une voie de tolérance pour finalement recréer une tolérance envers l'allergène. Et ça agit, on va pouvoir l'arrêter au bout d'un moment, parce que comme une maladie chronique, c'est un traitement à prendre de façon quand même chronique. On parle de maladie chronique avec l'allergie, mais on va pouvoir l'arrêter et il va continuer à agir. On va avoir un effet rémanent pendant plusieurs années. On dit que la moyenne, c'est entre 6 et 9 ans.
Mmh. Pascale Couratier, puisque vous êtes la directrice générale de l'AFPRAL, l'Association française pour la prévention des allergies, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prévention ? Parce que là, on parlait de traitement, mais c'est mieux si on peut intervenir en amont quand même.
Alors, je ne sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, c'est complémentaire, et parce qu'effectivement, l'immunothérapie n'est pas... le docteur Séverin Fernandez le confirmera, mais pas tous les patients peuvent y avoir recours pour différentes raisons. Et donc, autour de ça, ou avant ça, en fait, avant d'avoir recours à ce traitement, il y a bien évidemment les gestes de bonne pratique au quotidien. Tout à l'heure aussi, vous avez parlé de l'environnement, de notre mode de vie, et à la maison, aujourd'hui, on a des maisons hermétiques, on aère beaucoup moins souvent que précédemment, c'est moins ventilé, donc l'importance pour minimiser ces allergies et les allergènes dans la maison notamment, ça va être d'aérer son logement au moins 20 minutes par jour, si possible,
oui, parce que
si on y arrive.
On dit que l'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur.
Effectivement, il y a vraiment énormément de polluants chimiques et biologiques à l'intérieur de nos logements. Et pour ça, donc, il y a l'aération, et puis pour lutter contre les acariens, puisqu'on parlait d'allergie aux acariens, eh bien, s'équiper de housses anti-acariens, c'est aussi vraiment la base. Ça va vraiment envelopper le matelas et empêcher la prolifération des acariens. Mais en fait, c'est une multitude de bonnes pratiques, de bons gestes. On n'aura peut-être pas forcément le temps ce soir de tout énumérer, mais on pourra retrouver toutes ces informations aussi sur le site de l'AFPRAL. Voilà, aérer, changer sa literie régulièrement. Quoi, sa literie, les draps régulièrement.
Les draps, oui.
Voilà,
c'est-à-dire toutes les semaines ?
Oui, toutes les semaines. Laver ses draps à 60 degrés toutes les semaines. Je sais que ça surprend beaucoup de personnes. Moi, je suis également CMEI, mais c'est aussi un autre sujet. En faisant des visites, on s'aperçoit que les personnes, parfois, changent leurs draps qu'une fois par mois, voire tous les 2 mois. Pour la prolifération des acariens, eh bien, il vaut mieux vraiment s'en tenir à le faire une fois par semaine. C'est essentiel. Et puis après, éviter d'avoir des tapis, des rideaux vraiment épais. Voilà, il y a cet entretien de la maison. Et puis surtout, pour empêcher, on va dire, et minimiser les polluants chimiques. Donc, ça va être avoir recours à des produits d'entretien le moins impactant possible,
oui.
Comme le savon noir, le vinaigre blanc, etc. Parce que on a pris surtout pendant la période du Covid vraiment des habitudes avec le besoin de tout désinfecter. Mais en fait, à la maison, si on n'a pas de personne qui a une maladie contagieuse, on n'a pas besoin de désinfecter. Mmh. Donc, vraiment des produits simples au quotidien.
Voilà, et ça aussi, des conseils tout simples. Mais il faut changer notre façon de vivre aussi, hein, un petit peu, et y penser en tout cas. On a une question de Juliette qui est arrivée sur l'appli France Inter. Juliette nous dit, vous évoquez allergie et intolérance, mais pas l'hypersensibilité chimique multiple. Qu'en pensent vos invités ? Je vous pose la question, docteur Fernandez.
Alors, oui, parce que c'est l'hypersensibilité multiple, c'est ce qu'on appelle le SM. En fait, c'est une réponse aux produits chimiques qui naît actuellement, on n'a pas trouvé en tout cas, qui n'est pas immunitaire. C'est-à-dire, c'est une réponse de défense de l'organisme à des produits chimiques. Notamment, ça arrive beaucoup avec les parfums, avec les senteurs, vous voyez, les déodorants, les choses comme ça. Et en fait, ça, c'est une maladie assez récente qui est en train d'augmenter et qui est principalement liée à une hyperréactivité nasale. Et qui peut entraîner aussi des complications. D'accord. Donc voilà. Donc c'est un petit peu différent. Faut dissocier un petit du côté allergie. Hein. Moi je reste. Il faut quand même à chaque fois il faut se dire voilà il y a les SCM, il y a les intolérances, il y a les allergies. Il faut pas tout mélanger.
Bonsoir Jocelyne.
Oui bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci. Vous avez évoqué pas mal de choses, effectivement, incontournables au niveau des allergies. Je ne sais pas si vous en avez parlé, pardon, aux fruits de mer, par exemple, et aux poissons. Mais par exemple, je pensais, moi, aux animaux. Une étude américaine très sérieuse a étudié la vie de tout petits enfants dans des fermes et se rendu compte que les enfants étaient beaucoup plus immunisés. Je pense que la présence déjà dans un foyer de chat et de chien peut résoudre pas mal de problèmes. Et puis, je crois effectivement que ça a été évoqué. Si les gens, les enfants, les premiers sortaient un peu leur nez de leur portable et allaient un petit peu plus dehors.
Ça, c'est un autre sujet, ça, Jocelyne.
Voilà. Non, mais par rapport effectivement au renforcement des défenses immunitaires en général. Oui. Mais, et puis aussi, on parle, bon, les médecins parlent souvent de l'allergie au poil de chat. C'est faux, c'est l'allergie à la salive des chats. Donc, contre ça, on ne peut rien faire, mais il est sûr que quelque part, je pense qu'il y a des allergies, ça a été prouvé, qui peuvent ne pas exister. Une allergie aussi, j'ai entendu dire sérieusement, qui peut être évitée, c'est de ne pas donner, je ne sais pas si vous en avez parlé, certains arachides trop tôt.
Alors, voilà. Quand même que c'est on va parler de l'alimentation, et c'est intéressant, on va parler de l'alimentation dans l'enfance, docteur Fernandez. Est-ce que les choses se jouent à ce moment-là, avec les tout-petits ou pas?
Alors, pour l'alimentaire, on sait maintenant, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il faut aller vers une diversification précoce et variée. C'est-à-dire, on recommande de commencer la diversification entre 4 et 6 mois et d'y introduire le maximum d'aliments que l'on peut introduire. Pour ça, il y a des recommandations. L'année dernière, moi, je recommande de regarder, on a des vidéos faites, parce que toutes les années, au mois de juin, on a la Semaine mondiale de l'allergie. En France, on fait des interventions. Et l'année dernière, le thème, c'était les allergies alimentaires. Il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites, et dont une du professeur Lesmi, qui explique justement toute cette période de diversification et comment il faut faire. Donc, faut pas hésiter à aller voir sur le site internet. Mm-hmm. Mais effectivement, il faut absolument introduire dès que c'est possible les allergènes, mais même que ce soit la cacahuète, les noix de cajou, ce que vous voulez, sous forme de purée ou autre, c'est recommandé, si on n'a pas de terrain, bien sûr, à risque,
Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les animaux de compagnie, c'est-à-dire pour immuniser les enfants, entre guillemets, c'est bien qu'ils aient des animaux près d'eux quand ils sont très petits?
Eh bien, je vais rejoindre Jocelyne sur certains points qu'on a évoqués. C'est vrai, et ça a été montré, que quand on vit en milieu, comme on le disait, à la campagne, milieu rural, le fait d'avoir cette diversité finalement d'environnement avec des microbes, des contacts, des choses, ça enrichit notre système à nous. Et du coup, on a moins d'allergies, ça c'est montré, c'est prouvé.
Mmh. J'aimerais qu'on revienne sur l'alimentation avec vous, Pascal Couratier. Comment bien connaître la présence des allergènes dans l'alimentation? Il y a 14 produits aujourd'hui qui sont régulièrement cités, comme le lait, les œufs, le soja, les fruits à coque, etc. Mais il y a aussi le sésame, les lentilles, les kiwis. Est-ce qu'il faut mieux travailler sur l'étiquetage?
Alors oui, aujourd'hui, on a 14 allergènes à déclaration obligatoire, mais cette liste existe déjà depuis 2003. Et effectivement, il s'avère aujourd'hui que d'autres allergènes, d'autres aliments provoquent des allergies plus graves, aussi graves que la liste de ces 14, comme les aliments que vous avez cités. Et il est important de travailler avec notamment la Commission européenne pour faire, parce qu'en fait tout vient de la Commission européenne, n'est-ce pas, au niveau de la réglementation de l'étiquetage, pour faire évoluer cette liste et y insérer la liste des nouveaux allergènes émergents. Ça, c'est vraiment un travail que nous menons auprès de la Commission européenne en tant qu'association, en fait, et on se base en fait, hein, parce qu'on, bien évidemment, nous on n'a pas les chiffres, hein, ce sont les scientifiques, hein, les allergologues qui peuvent communiquer sur ces chiffres. Et il y a un réseau de médecins qui s'en occupent en France, mais ailleurs aussi en Europe. Et à partir de là, nous aussi, on intervient auprès de la Commission européenne pour agrémenter cette liste.
Mais 14 produits régulièrement cités, franchement, c'est un casse-tête, par exemple, pour un restaurateur.
Mais pas du tout.
Non, 14 produits, ça fait beaucoup.
Un restaurateur, en fait...
Il faut que dans son menu, il mette à chaque fois tous les allergènes qui sont derrière. Et quand il y en a 14, ça fait beaucoup, hein.
Ah oui, mais est-ce que on prend un exemple? Si vous prenez, je vais prendre l'exemple tout simple du lapin à la moutarde. Le lapin à la moutarde ne contient pas les 14 allergènes. En fait, ce qu'on demande aux restaurateurs, comme à tous les métiers de bouche, que ce soit la boulangerie, le traiteur, la restauration collective, c'est-à-dire les cantines scolaires et les cantines d'entreprise, c'est en fait d'identifier les allergènes présents et intégrés volontairement dans leurs recettes. C'est-à-dire à la cantine ou au restaurant, on va au restaurant, normalement ça peut se faire à l'aide d'un tableau tout simple, on liste les recettes et on met la liste des allergènes et le restaurateur, alors bien sûr je dis NACA, ça semble simple, mais en fait le restaurateur, il fait une recette à base de lapin à la moutarde, on va dire.
Mais ça c'est une recette simple, il y a parfois des recettes où il y a 12 ingrédients, hein.
Oui, eh bien, de toute façon, je veux dire, aujourd'hui, ça semble complexe, mais il y a quelques années, ou peut-être une cinquantaine d'années, c'est plus récent que ça, quand on a recommandé aux restaurateurs, aux cuisiniers, etc., on les a obligés à filmer ou à fermer hermétiquement tous les récipients qui réintégraient le réfrigérateur. Ça a semblé quelque chose d'insurmontable.
Oui, et puis on s'y fait, quoi.
Tout le monde le fait, et ça nous semblerait aberrant que ça ne soit pas fait. Et donc, pour la liste de ces 14 allergènes aussi, c'est tout à fait réalisable. Il suffit d'avoir un peu d'entraînement. Et puis, de toute façon, un restaurateur a un certain nombre de recettes à proposer tout au long de l'année, et après ça peut toujours les mêmes, même si elles varient en fonction du marché qu'il a pu faire le matin.
Bonsoir Mia.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, je vais prendre effectivement la suite de ce que vous venez d'évoquer, puisque je suis moi-même allergique alimentaire sévère à la cacahuète, et j'ai une de mes filles qui est allergique sévère avec plusieurs aliments, au lait, aux œufs, aux noix, pour les plus importants, et d'autres qui peuvent l'être un peu moins. Mais c'était en fait pour témoigner qu'effectivement, c'était quand même en quelque sorte un handicap social, en tout cas dans l'expérience que je peux avoir. Aujourd'hui, elle est adolescente. Par le fait déjà de la restauration, là je reprends ce que vous avez évoqué tout à l'heure, puisqu'effectivement, aujourd'hui, la réglementation européenne impose aux restaurateurs de signaler en fait les 14 allergènes les plus importants sur leurs recettes. On constate, nous, au quotidien, que c'est pas toujours
respecté.
Ouais. Non, exactement, et ça nous crée quand même des grandes difficultés, parce que quand on a un risque de choc anaphylactique et qu'on a quand même envie d'essayer de vivre à peu près normalement, on essaye de temps en temps de faire un restaurant. Et surtout, on a constaté qu'à l'étranger, c'était beaucoup plus suivi qu'en France. D'accord. On a moins de problématiques en Espagne, en Grande-Bretagne, où c'est suivi, donc c'est que c'est faisable, je pense.
Ça veut dire que vous avez un stress, Mia, quand vous allez au resto ?
Permanent, en fait. On est toujours obligé de demander. En fait, vous évoquiez en début d'émission le fait que l'allergie n'était pas forcément prise au sérieux. Et aujourd'hui, ça nous arrive de dire, mais si ce n'est pas bon, il faut nous le dire parce qu'il y a un risque vital, en fait. Donc, on est obligé de remettre la gravité du risque devant la personne. Alors, c'est pas toujours facile. On a des gens qui ne veulent pas nous servir. C'est déjà arrivé. Donc, on est obligé de partir.
Ouais. Donc, c'est-à-dire, ils pensent quoi ? Que c'est une posture ?
Non, ils pensent que si jamais ils ne sont pas sûrs de leurs produits,
ah, oui, d'accord.
Ces produits, ils sont eux-mêmes en risque en fait.
Mm-hmm.
Donc on a plus cet élément-là.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, Mia, que finalement ça engendre un handicap social?
Oui, j'irais jusqu'à dire ça. Je pense que quand on a un environnement amical, un entourage qui est très à l'écoute, on arrive à vivre à peu près normalement, parce que c'est pareil quand vous êtes invité chez quelqu'un, hein, c'est pas toujours simple. Mais vraiment, avec cet environnement bienveillant, c'est très aidant. Mais si c'est mal compris, peu compris, pas pris au sérieux, effectivement, on est sur un vrai handicap social et sur les restaurateurs, c'est le cas. Par contre, je voulais quand même signaler aussi que sur l'industrie, ça s'est quand même beaucoup amélioré, puisque moi, j'ai vécu la même problématique étant plus jeune, et qu'aujourd'hui, on a tous les allergènes, enfin les principaux, en tout cas les nôtres, sont indiqués sur les ingrédients. Alors, faut avoir bons yeux pour lire les ingrédients, mais on arrive à s'en sortir en faisant les courses et en étant en sécurité.
Mmh.
Encore le cas dans la restauration.
Voilà, au moins, il y a un point positif. Docteur Fernandez, elle a dit plein de choses intéressantes, Mia, et je retiens ce terme de handicap social. Ça a des conséquences psychologiques, les allergies, et on l'oublie trop souvent.
Ah oui, moi je remercie Mia qui a parfaitement le témoignage qu'on voit au quotidien, elle n'est pas toute seule. Et vraiment, je rejoins aussi Pascal Couratier qui a insisté, en fait, il faut prendre... ce sujet des allergies alimentaires, c'est pour ça que dès le début, je vous ai dit, il faut séparer allergie d'intolérance.
Oui.
Allergie, il y a des morts. Il y a des morts d'allergie. Donc, il y a un moment où, au niveau des aliments, là, on peut se dire, oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, mais en fait, il n'y a plus le choix. Il faut les mettre en place, il faut permettre aux personnes allergiques, je rappelle qu'on a 8% de nos enfants qui sont allergiques alimentaires, on ne va pas s'isoler, on ne peut pas les mettre de côté, il faut les intégrer dans la société, et pour les intégrer, il faut comprendre ce que c'est, être sensibilisé, et il faut appliquer des réglementations qui ne sont pas si compliquées, comme on le dit, dans d'autres pays, Espagne, Italie ou autres, ça se fait très bien.
Mmh. On va prendre Marion, justement, qui est infirmière. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. D'abord, moi, je voulais juste dire que je suis infirmière depuis 7-8 ans. Je suis intérimaire depuis 2 ans et je tourne dans pas mal de services. Et c'est, on n'a jamais... Enfin, il n'y a vraiment pas du tout. Enfin, tout ce qu'on fait, comme je vous disais en message, c'est donner de l'ARS. En fait, il n'y a pas de sensibilisation aux allergies. Et on a les plus grandes difficultés du monde, notamment quand il y a des allergies alimentaires, à le faire remonter aux cuisines, par exemple. Il faut que ce soit les ASH et les aides-soignantes qui vérifient systématiquement les assiettes. Voilà. Alors, on est très sensibilisés aux allergies médicamenteuses. Là, par contre...
En milieu hospitalier, oui, énormément, oui.
Oui, il n'y a pas de souci, les médecins ne donnent pas des médicaments. Ça, par contre... Mais après, tout ce qui est allergie... alimentaire ou allergie un peu plus allergie pollen, comment dire, ça passe un peu au-dessus de et ce qu'on fait, c'est donner des médicaments antihistaminiques en fait quand les gens se plaignent d'avoir des pruritus, enfin, voilà, ça les gratte, tout ça. Après, ça va pas plus loin, mais c'est vrai honnêtement, par rapport.
Mais vous avez raison, et je crois qu'il faut vraiment qu'on insiste sur ce point, docteur Fernandez. On a un problème de diagnostic. C'est-à-dire qu'on dit que dans notre pays, il faut en moyenne 7 ans pour qu'un adulte consulte un allergologue. C'est pas possible?
Non, ça, c'est plus possible, en fait. C'est surtout que c'est plus possible.
Avec des dizaines de millions de personnes qui sont allergiques?
Oui. Alors, surtout que j'appelle vraiment à prendre en considération ce problème. Il faut mieux sensibiliser, mieux informer, mieux former, ça c'est sûr, et à tous les niveaux. Donc je pense que c'est important, hein, l'allergologie est une spécialité depuis 2017.
Oui.
Il faut, on est 377 allergologues spécialistes en France. Hein.
377, c'est-à-dire
à ce jour.
Mais personne, quoi, en fait.
C'est-à-dire que actuellement, effectivement, la spécialité d'allergologie est, et en fait, on a fait des validations d'acquis pour devenir allergologue pour les anciens qui n'avaient pas la spécialité. Et maintenant, on a des internes qui sortent formés à l'allergologie, mais ils sont 35 en moyenne par an. On a une population d'allergologues qu'on estime à 50% de plus de 60 ans. et des pratiquants
donc,
l'allergologie.
Il n'y a pas de renouvellement des générations.
Exactement. Et des pratiquants l'allergologie. Donc, on a quand même des collègues qui sont toujours médecins généralistes qui font de l'allergologie, pneumo-allergologues qui viennent aider. Mais au total, au maximum, on monte jusqu'à 800.
Et comment vous expliquez ce désamour pour cette discipline, docteur Fernandez?
Parce qu'elle est mal connue. Parce que si elle était mieux connue, mieux reconnue, honnêtement, c'est une discipline qui est passionnante. Des patients qui sont à la fois passionnants parce qu'on va sur... il y a un vrai suivi de nos patients. C'est des gens qu'on voit tout petits et qu'on voit grandir, qui ont plusieurs problèmes qu'on arrive à soigner. Hein, on en a parlé, vous avez constaté que maintenant, les allergies, c'est complexe. Mmh. On a les allergies respiratoires, alimentaires, ceux qui ont des problèmes de peau, ceux qui font des allergies aux médicaments. Donc, en fait, il y a une complexité qui est hyper enrichissante pour nous, en tant que scientifiques, et qui aide la population en plus, parce que comme on l'entend depuis tout à l'heure, c'est un problème qui gêne sur la vie au quotidien.
Mais oui.
Donc, je pense qu'elle n'est pas assez reconnue, mais elle n'est pas assez valorisée.
Mais est-ce que, par exemple, les médecins généralistes devraient être mieux formés durant leur cursus à l'allergologie ? Alors, même sans être spécialiste, mais déjà en savoir un peu plus.
Je pense que toutes les spécialités devraient être mieux formées à l'allergologie au départ dans nos études. Et pour ça, il nous manque une chose, c'est ce qu'on appelle les CNU, en fait. C'est une vraie reconnaissance de cette discipline. Mais oui, il faudrait que tout le monde soit plus sensibilisé parce que ça atteint tous les organes et qu'il faut une base. Mmh. Après, il faut surtout augmenter le nombre d'allergologues. Il faut mieux former.
C'est urgentissime.
Ça, c'est important.
Et c'est urgent. Merci, on arrive à la fin de cette émission. Merci infiniment, docteur Fernandez, allergologue à la Ciotat dans les Bouches-du-Rhône. Et merci aussi à vous, Pascale Couratier, directrice générale de l'Association française pour la prévention des allergies. Je vous souhaite une bonne soirée. Après 20h, les petits bateaux avec la question d'Alma, 4 ans et demi.
Je voudrais savoir pourquoi on est obligé de se laver les dents tous les jours, le matin et le soir.
On doit venir, petite coquine. La réponse dans quelques minutes.